le magazine des Nations Unies.
La RDC se dote de son plan de réponse humanitaire pour 2020. Il a été lancé vendredi 28 février à Kinshasa. Ce plan concernera 8 millions de personnes dans le besoin. Défi espoir de ce programme humanitaire, c'est avec le représentant résident de l'équipe pays des Nations Unies et coordonnateur humanitaire, ce sera dans la rubrique décryptage. L'enquête à indicateurs multiples MIX 2018 a livré ses secrets sur la situation de l'enfant en République démocratique du Congo. Les résultats de ce document ont été publiés à Kinshasa. Il pourrait servir de référence à plusieurs projets de développement dans le pays. Des détails dans un instant. Radio Kapi a 18 ans. 18 ans, c'est l'âge de maturité qui place la radio à l'heure du numérique et des innovations. Dans ce numéro, le magazine des Nations Unies revient sur son historique. Le directeur de Radio Kapi est notre invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de magazine des Nations Unies. L'UNICEF et le gouvernement, représentés par la vice-première ministre et ministre du Plan, ont présenté jeudi le résultat de l'enquête à indicateurs multiples MIX 2018 PALU. Cette enquête menée sur financement de l'UNICEF avec l'appui du Fonds mondial et de l'USAID sur l'ensemble du territoire national a l'avantage de présenter des indicateurs fiables sur la situation de l'enfant congolais. Les grandes lignes de ce document avec Jean-Pierre Elali Koko.
C'est un document de 11 chapitres. Il présente des résultats fiables des indicateurs qui concernent la situation de l'enfant en République démocratique du Congo. Parmi ces indicateurs, il y a l'éducation, la santé maternelle et néonatale, le paludisme et la vaccination, la mortalité des enfants de moins de 5 ans, l'état nutritionnel des enfants. Dans son allocution, le représentant de l'UNICEF, Edouard Bekdeder, a relevé des progrès réalisés notamment en matière de l'éducation, où plus de 3 quarts des enfants, soit 78% en âge de fréquence, quand l'école primaire et secondaire sont effectivement scolarisées au niveau primaire. Il a noté aussi que des efforts restent encore à faire en ce qui concerne notamment l'accès à l'eau potable et la nutrition où le niveau de retard de croissance des enfants de moins de 5 ans est particulièrement alarmant, culminant à 42%. Pour la vice-ministre et ministre du Plan, Élisée Mounemboué, les indicateurs identifiés serviront à la préparation du contrat programme entre le gouvernement et l'équipe pays des Nations Unies. Il servira aussi de base dans la mise en œuvre du plan stratégique national de développement, a-t-elle indiqué.
Nous le disions en titre, le 25 février dernier, Radio Kapi, votre radio, a totalisé 18 ans d'existence. Jean-Pierre Elali Koko nous replonge dans l'historique de la radio onusienne. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Babel. Disons que l'historique de Radio Kapi est intimement lié à l'évolution politique de la RDC. Nous sommes le 25 février 2002. Les protagonistes politiques du pays lancent le dialogue intercongolais en Afrique du Sud. C'est à l'occasion de ces grands événements historiques que Radio Kapi lance ses émissions et fait large écho de l'événement et des discussions qui vont s'engager au pays de Nelson Mandela. On connaît la suite. Le dialogue intercongolais aboutit à la réunification du pays à l'époque sous différentes administrations du gouvernement légitime et des mouvements rebelles. Et Radio Kapi a largement contribué en accompagnant cette réunification. 18 ans après, on peut dire que Radio Kapi a fait du chemin. Elle continue sa mission d'informer les Congolais où qu'ils soient avec professionnalisme, objectivité et impartialité. Aujourd'hui, la radio est suivi par une vingtaine de millions d'auditeurs et d'internautes en RDC et dans le monde.
Merci Jean-Pierre. Et à l'occasion des 7 heures anniversaires, de voix s'élève pour saluer le professionnalisme de son personnel qui a travaillé sans relâche ces dernières années pour apporter de l'information fiable au public. Pour la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Radio Kapi est l'outil de communication de l'ONU, mais aussi l'outil des Congolais. Leila Zirougui s'exprimait ainsi lundi devant les journalistes de Radio Kapi ici à Kinshasa. On écoute la chef de la MONUSCO dans cet extrait choisi par John Bopengo.
Nous fêtons les 18 ans de Radio Kapi, je voudrais quand même souligner l'importance de cette radio, l'importance du rôle qu'elle a joué dans ce pays. Elle l'a joué grâce à vous, elle a été l'outil de communication des Nations Unies, mais elle a aussi été l'outil des Congolais. Parce qu'à la fin, c'est vous, les Congolais, qui avez été les plus nombreux, les journalistes sur le terrain, ceux qui, dans des moments difficiles, vous avez été parfois ciblés juste parce que vous êtes dans cette radio. Pour vous, ça a été aussi toujours pas facile de travailler sur votre pays, mais on vous dit de rester neutre et de rester dans les Nations Unies. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile, et je sais que parfois moi-même j'ai été dure avec vous, mais c'était aussi pour garder cet outil-là, celui que tout le monde, dans tous les sondages, et j'en ai parlé même récemment quand ils ont fait le sondage sur le paysage médiatique au Congo, Radio Okapi reste un outil qu'on appelle bijou, et on veut le préserver et on veut qu'il continue. Donc bon anniversaire pour ça.
À l'occasion de 18 ans de Radio Okapi, magazine des Nations Unies recevra comme invité Christophe Boulirac, directeur de cette radio. Autre actualité cette semaine, c'est l'atelier d'élaboration des plans de travail conjoint 2020-2021. Des experts congolais et l'équipe des Nations Unies ont tenu pendant 5 jours ces travaux qui entrent dans le cadre du processus de mise en œuvre du plan cadre conjoint de coopération des Nations Unies en RDC. Un plan signé le 30 décembre dernier entre le gouvernement et le représentant résident et coordonnateur de l'équipe des Nations Unies. Jean-Pierre Elali Koko a assisté au lancement des travaux. Je vous propose son reportage.
Au nom de son Excellence, Madame la Vice-Première Ministre, Ministre du Plan, je déclare ouvert les travaux de cet atelier.
C'est en ces termes que le secrétaire général au plan a lancé ce mardi les travaux de l'atelier d'élaboration des plans de travail conjoint 2020-2021 de l'équipe PPI des Nations Unies en RDC. Dans son intervention, le secrétaire général au plan, Daniel Epembe, a souligné l'importance des travaux et indiqué les objectifs aux participants.
Cet atelier doit aboutir à l'élaboration de 3 plans de travail conjoints à raison d'un plan par axe du cadre de coopération des Nations Unies.
Pour sa part, son collègue de la coopération internationale, Vincent Moussambia, a rappelé la participation de la RDC aux travaux des conseils d'administration de certaines agences à New York.
Je voudrais, dans le respect du processus d'élaboration du nouveau cadre de coopération, vous informer de la participation de la RDC, dont la délégation a été conduite par votre serviteur, aux travaux des conseils d'administration du CNUD, UNFPA et UNICEF à New York, au cours desquels de nouveaux documents des programmes pays des agences citées ci-haut ont été validés.
Notons que ces travaux entrent dans le cadre du processus de mise en œuvre du plan cadre conjoint de coopération signé le 30 décembre dernier.
Une centaine d'experts en environnement ont validé le document de politique, stratégie et plan d'action en matière de lutte contre le changement climatique. C'était mercredi au cours d'un atelier organisé par le ministère de l'Environnement et Développement Durable avec l'appui financier et technique du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. C'est un document qui donne toute une vision des différents secteurs sur l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques. Le professeur Kamate Kachongo, coordonnateur du projet Plan national d'adaptation au changement climatique au PNUD, revient sur l'importance de ce document. Il est au micro de Jean-Pierre Elali Koko.
En soi, c'est un document qui retrace la vision, le contexte national à la fois avec ses volets politiques, démographique, socio-économique, vulnérabilité, et essaie de décrire le cadre légal et institutionnel ainsi que le processus politique visant l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Il s'appesantit aussi sur les synergies à créer entre les différents secteurs.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le gouvernement a lancé vendredi le plan de réponse humanitaire RDC 2022. Ce plan humanitaire est estimé à 1,82 milliard de dollars américains. Il prévoit de cibler 8 millions de personnes. Pour parler de ce plan humanitaire, le magazine des Nations Unies a approché le représentant résident de l'équipe des Nations Unies et coordonnateur humanitaire, David McLachlan Carr, s'est prêté aux questions de Jean-Pierre Elali Koko.
David McLachlan Carr, bonjour.
Bonjour à Jean-Pierre.
Donc c'est vendredi 28 février. Le gouvernement et la coordination humanitaire des Nations Unies ont lancé un plan des réponses humanitaires en RDC 2020. Ce plan humanitaire intervient dans un contexte marqué, entre autres, par des épidémies, la malnutrition, 5 millions de déplacés internes et par des catastrophes naturelles. Quelles sont, monsieur le coordonnateur, les priorités de ce nouveau plan?
Oui, j'étais sans avec son Excellence Madame la Vice-Première Ministre, ministre du plan pour le lancement de le nouveau plan de réponse humanitaire en RDC 2020. 2020. Le plan de réponse humanitaire de cette année 2020 est le plus ambitieux plan jamais présenté, aussi bien en termes de montants nécessaires qu'en termes des personnes que nous prévoyons d'assister. Cette année, nous prévoyons d'assister plus de 8 millions de personnes, dont plus de 51% bien sûr sont des femmes. Le plan de réponse met l'accent sur les besoins vitaux les plus immédiats. Les priorités, bien sûr, restent de sauver des vies, mais aussi comment maintenir les familles, les femmes, les enfants en vie, en attendant qu'elles retrouvent un cours de normal à leur vie. Malheureusement, depuis l'an 2014, le nombre de personnes qui ont besoin d'aide ne cesse, dénotant une détérioration de la crise humanitaire en RDC.
Ce plan succède à celui qui a été présenté en 2019. Faisons un pas en arrière. Quel est le bilan du plan de réponse humanitaire 2019?
2019 a été une année difficile pour le pays et pour les Nations Unies ici en RDC. Depuis janvier 2019 à ce jour, le pays traverse sa pire épidémie de rougeole avec, malheureusement c'est triste, mais avec plus de 6 000 morts. Le pays est aussi confronté à sa plus longue et la plus meurtrière épidémie d'Ebola. Heureusement, maintenant, on est dans le bon chemin pour éradiquer l'Ebola, mais c'est toujours une crise dans l'Est. Mais malheureusement, c'est l'insécurité qui a déplacé des milliers de familles pour des axes, des milices et des violences dans l'Est du pays. Et ça a affecté comme les gens qui sont déplacés, mais aussi comme les activités économiques dans quelques zones du pays. 2019 a été également difficile car nous avons reçu le plus faible pourcentage de financement des 6 dernières années. On est arrivé à seulement 46% des financements sur un montant total de plus de 1,6 milliard de dollars américains. La réponse humanitaire a été affecté par ce faible taux de financement. Bien sûr, l'effet net, c'est que nous n'avons pu atteindre toutes les familles que nous souhaitons. Mais malgré tout cela, y compris l'insécurité, ce sont des millions d'enfants qui ont été vaccinés l'année dernière et cette année contre les maladies dans les quatre coins du pays. On est arrivé des cargaisons de nourriture qui ont servi à nourrir des millions des familles, y compris les agences onusiennes et les ONG qui ont collaboré pour traiter des pires formes de malnutrition dans le pays. Nos programmes de transfert monétaire aussi ont permis à des millions de familles de faire face à de nombreux besoins.
À vous entendre parler, monsieur le coordonnateur, c'est que beaucoup reste encore à faire. Alors, comment les Nations Unies et bien sûr le gouvernement comptent-ils travailler pour mobiliser des financements?
Oui, c'est un excellente question. Oui, c'est un grand défi. Mais la mobilisation des ressources est un travail conjoint et collectif. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'irai avec le ministre des Actions humanitaires et autres hauts fonctionnaires de présidence. Nous allions en Suisse pour présenter le plan de réponse humanitaire 2020 au Palais des Nations Unies à Genève et plaider la cause des familles congolaises affectées par la crise. La communauté humanitaire entière a des bonnes relations avec le gouvernement et nous comptons maintenir cette bonne relation afin que nos efforts donnent ensemble plus de visibilité aux besoins des personnes ici en RDC. Les Nations Unies poursuivront aussi les autres actions indépendantes de mobilisation des fonds auprès des bailleurs des fonds ici dans le pays, mais à l'étranger aussi, et travailler aussi avec la communauté congolaise expatriée, mais aussi dans le pays, pour donner un appui aux efforts du gouvernement pour sauver les vies. Mais c'est un grand défi. Il y a une certaine fatigue qui existe entre les bailleurs des fonds, mais pour nous, ça existe. Les besoins des personnes ici en Congo, et nous devrons faire face à ces besoins pour fournir plus d'aide cette année que l'année dernière en RDC pour sauver des vies et pour aider les gens qui se trouvent dans les besoins.
Oh, vous avez signalé qu'il y a beaucoup de défis à relever. Est-ce que vous êtes optimiste, David?
On travaille pour les Nations Unies. Il faut être optimiste. Oui, je suis optimiste.
Un dernier mot?
Je crois que ce plan d'action humanitaire, c'est bien important pour le pays, mais aussi, je crois que au cœur de chaque crise humanitaire, il y a aussi un manque d'investissement sur le développement. On va essayer cette année aussi de travailler plus sur le chemin de Nexus. Ça veut dire d'assurer une liaison entre notre action humanitaire, mais aussi avec les acteurs de développement et aussi avec la mission MONUSCO pour construire une vraie paix ici dans le pays. Et je vais faire un effort d'assurer comment l'action humanitaire va ensemble avec un investissement pour le développement, mais bien sûr, et surtout dans l'Est, pour l'action de MONUSCO. On a beaucoup de choses à faire, mais avec l'appui du gouvernement, avec les Nations Unies, avec nos partenaires, on va faire un effort pour sauver des vies et pour fournir l'assistance dans tout le pays dans cette année 2020.
David McLachlan, car je vous remercie.
Merci beaucoup.
Notre page de nouvelles partira du Nord Kivu à Goma précisément. Une mission conjointe des sections justice et administration pénitentiaire de la MONUSCO ainsi que du bureau conjoint aux droits de l'homme a séjourné cette semaine dans le territoire de Rutshuru. Objectif de la mission, examiner les conditions carcérales des détenus et s'informer directement de l'état des procédures des prévenus au cas par cas. Cette mission est accompagnée de deux membres du comité de suivi des lieux de détention, comprenant un magistrat civil et un magistrat militaire. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, en République démocratique du Congo, a publié un rapport sur les mouvements des populations déplacées au cours du mois de février en Ituri, au Nord Kivu ainsi qu'au Tanganyika. Ces mouvements concernent un peu plus de 6000 ménages installés essentiellement dans les territoires d'Irumu, dans la province de l'Ituri, et aussi dans des villages situés dans les territoires de Beni au Nord Kivu. Il faut dire que ces données et évaluations ont été recueillies et grâce aux mécanismes mis en place à travers la DTM, Displacement Tracking Matrix, un mécanisme d'évaluation rapide des déplacements des populations, Emergency Tracking Tool, ETT, dont l'objectif est de recueillir rapidement des informations sur les déplacements soudains des populations et de fournir des données spécifiques concernant le nombre des personnes déplacées, leur localisation ainsi qu'une perception de leurs besoins. Cela afin de permettre à la communauté humanitaire de délivrer une assistance rapide aux populations identifiées. Enfin, cette information du HCR, des rapatriés congolais continuent de quitter le site de réfugiés de Lovwa en Angola dans le cadre d'un programme de rapatriement librement consenti vers la région du Kasaï et organisé par le HCR. Plus de 17 000 retournés ont reçu une allocation monétaire ainsi qu'une aide humanitaire. Cela a lieu en collaboration avec les autorités provinciales et partenaires sur le terrain. Cependant, on apprend que certains retournés ne savent pas toujours dans quelles conditions ils retrouveront leur foyer. D'autres ne souhaitent pas rentrer chez eux et s'installent ailleurs.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous l'avons annoncé à l'occasion des 18 ans de Radio Okapi. Nous recevons comme invité Christophe Boulirak, son directeur. 18 ans après son lancement, Radio Okapi a fait du chemin. Christophe Boulirak parle de quelques innovations et réaménagements au sein de ce média et aussi de l'avenir de cette radio. Il s'entretient avec Jean-Pierre et Lali Koko.
Christophe Boulirac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Radio Capi. 18 ans avant son lancement, Radio Capi a grandi, elle a fait du chemin. Vous êtes là, dans ce studio, pour nous parler de quelques innovations et de l'avenir même de cette radio.
Eh oui, Radio Capi a 18 ans, c'est la majorité. C'est l'occasion de rappeler que nous sommes toujours très présents dans tout le pays. Nous avons même ces derniers mois augmenté encore notre couverture. Alors je voulais rappeler que nous avons par exemple une nouvelle station régionale à Boutembo, hein, avec des journalistes, hein, sur place. On a installé une nouvelle antenne à Mambasa en Ituri. Nous venons d'installer un émetteur beaucoup plus puissant à Beni, hein, qui nous permet d'élargir notre couverture et de toucher plus d'audience dans la région. Et puis nous avons déployé des correspondants, hein, dans les villes où la MONUSCO s'était retirée l'an dernier. Donc ça, c'est pour rappeler que Radio Capi reste très présente dans le pays et même dans certaines régions augmente sa couverture.
On peut dire aussi que 18 ans après, Radio Capi veut être écoutée.
Ah oui, une radio veut toujours être écoutée et Radio Capi veut continuer à être utile à tous les Congolais et les Congolaises dans tout le pays. Ça, c'est vraiment important de le signaler. Je crois que ce que je voudrais dire pour les 18 ans, c'est que nous voulons être davantage à l'écoute de notre audience, davantage à l'écoute de nos auditeurs et nos auditrices dans tout le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir ce qu'ils aiment dans Radio Capi, ce qui est utile pour eux, et puis ce qu'ils voudraient un petit peu changer. Par exemple, il y a quelques semaines, on a reçu ici à Kinshasa des auditeurs et des auditrices. On les a réunis avec des reporters, et puis ils nous ont dit un peu pourquoi la radio était toujours très importante pour eux, ce qu'ils aimaient beaucoup moins. Et c'est dans cet esprit d'écoute, hein, plus d'écoute pour ceux et celles qui nous écoutent, que nous faisons des aménagements, nous faisons des innovations. C'est l'occasion, par exemple, pour moi, d'annoncer que nous allons reprendre le lundi prochain, lundi 2 mars, nous allons reprendre notre décrochage en Lingala. Alors ça, c'est évidemment à l'intention de notre audience quinoise. Il y aura des reportages, des informations de proximité en Lingala.
À Kinshasa.
Mmh. Et puis, nous souhaiterions, nous le faisons déjà, mais nous souhaiterions le faire encore plus, aller vers les auditeurs, aller dans leur vie quotidienne, être là, organiser des émissions là où ils vivent, nous rapprocher d'eux, toujours ce point important. Par exemple, en début d'année, on a organisé une série d'émissions Dialogue entre Congolais dans la ville de Beni. On va continuer à le faire dans d'autres endroits du pays. Au Capi Service, par exemple, ce jeudi, là, 27 février, va être sur place à l'Université Technologique Bel Campus de l'IMETE.
C'est à Kinshasa, ici.
C'est à Kinshasa, c'est jeudi de midi à 14h, hein, dans la 8e rue, l'Université Technologique Bel Campus de l'IMETE, 8e rue, quartier industriel. Ce sera une émission sur la lutte contre les fake news.
Pour l'instant, on parle beaucoup plus du numérique. Qu'est-ce que Radio Capi pense quelque chose aussi pour essayer d'être au diapason des grandes chaînes de radio sur le plan national et sur le plan même international?
Ben oui, parce que le Congo change. Il ne faut pas voir le Congo comme un pays qui ne change pas. C'est un pays qui change peut-être plus qu'on ne le croit. Et les médias doivent s'adapter à ce changement. Ils doivent s'adapter Il y a des profondes mutations, hein, dans les modes de consommation de l'information, dans la façon dont les Congolais et les Congolaises accèdent à l'information. Le taux de pénétration d'Internet augmente. Certes, pas partout. Hein, la radio reste formidable pour pouvoir toucher les gens, mais on le sait tous, il y a de plus en plus de gens qui ont accès aujourd'hui à l'information via leur smartphone. Donc lentement mais sûrement, Radio Capi doit pouvoir faire en sorte que toutes les informations, comme aujourd'hui, les informations fiables et crédibles, hein, que les reporters produisent, ces informations, elles vont dans les ondes, hein. Mmh. elles sont répercutées par tous nos émetteurs dans le pays. Ben, il faut faire en sorte aujourd'hui qu'elles soient aussi présentes, ces informations fiables, sur le canal numérique, c'est-à-dire essentiellement sur les médias sociaux. Et donc nous sommes engagés dans cette voie.
Voilà, nous venons pratiquement de parler des innovations qui sont attendu dans les tout prochains jours ici à Radio Capi. Est-ce que vous avez, pour terminer, Christophe, un dernier mot à dire?
Le dernier mot, c'est que on connaît tous la contribution, hein, il n'y a pas besoin de le rappeler, de Radio Capi, qui est née en 2002, sa contribution à l'histoire du pays. Elle est née au moment où le pays était divisé, elle a contribué à le réunifier, elle a accompagné toutes les grandes étapes politiques, institutionnelles, électorales pour la population. Nous souhaitons que cette radio continue d'être utile à la population, et je voudrais vraiment insister sur le fait que ce n'est pas que la population urbaine, mais aussi la population rurale. Radio Capi a toujours un rôle très important à jouer aujourd'hui et dans les années à venir. Je pense l'un des grands atouts de grande réalisation de Radio Capi, d'avoir contribué au fait que les points de vue opposés, divergents, puissent être exposés. C'est toujours, on en a toujours besoin aujourd'hui dans un climat de respect, de tolérance et de paix.
Christophe Bouliriac, je vous remercie.
Merci.
Notre nouvelle de province vient de Goma, plus précisément de Rugari, dans le territoire de Rutshuru, à 30 km de là. Au moins 250 petits producteurs agricoles réunis en 8 coopératives ont réceptionné mardi 3 entrepôts communautaires en vue du relèvement de leur production. C'est un projet conjoint PAM-FAO avec un financement du gouvernement allemand. Ces complexes d'entrepôts sont situés dans 3 territoires, Rutshuru, Massissi et Niragongo. Ils ont été remis symboliquement à Rugari. C'était en présence de plusieurs autorités congolaises humanitaires. Sifama Gourou a assisté à cette cérémonie.
C'est un complexe d'entrepôt de 160 mètres carrés avec une capacité de 400 tonnes de vivres. Il comprend aussi une unité de transformation, une aire de séchage et une boutique d'intrants. Cette infrastructure permettra aux agriculteurs d'augmenter la valeur de leur production à travers la transformation. Elle devra aussi favoriser la consommation locale et faciliter le travail des femmes. L'un des responsables des coopératives bénéficiaires reconnaît l'impact positif de cet appui multiforme.
Jadis, nos organisations paysannes travaillaient sans rendement suite à un mauvais mode de travail. Et maintenant, grâce au financement du gouvernement allemand, il serait vraiment ingrat de ne pas manifester notre joie auprès des PAM et FAO qui n'ont cessé de venir nous encadrer pour un changement positif au sein de nos OP.
Le responsable technique du projet au sein du PAM a exhorté l'implication du ministre provincial de l'Agriculture, Madame Pelagie Ouayo-Kabano, qui a présidé cette cérémonie. C'était en présence de Madame Makena Walker, coordonnateur du PAM à Goma, et de Messieurs Cooper Tarondé, coordonnateur zone est de la FAO. Goma, Sifamagoro, Radio Capi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Nous revenons aujourd'hui sur le rôle de la MONUSCO dans l'acheminement de l'aide humanitaire des ONG humanitaires dans le Haut Plateau Sud Kivu. La question a été posée à la conférence des Nations Unies le mercredi 26 février. C'est Mathias Gilman, porte-parole AI de la MONUSCO, qui répond.
Beromba Numérica TV. Bon, M. Kinda vient de partir, je crois qu'il y avait une préoccupation au niveau du plateau du Sud Kivu. Dans les Minembo et Mikenge, selon certaines sources, des difficultés qu'éprouvent les ONG humanitaires pour acheminer leur matériel vers les déplacés. Et ils ont mis en cause la MONUSCO qui ne veut pas faciliter leur déplacement. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Nous sommes tous les jours approchés par des ONG, effectivement, pour transporter de l'assistance parfois dans des régions qui parfois cette assistance ne cible qu'une communauté en tant que bénéficiaire potentiel. Nous n'avons pas les moyens d'acheminer l'assistance humanitaire nous-mêmes. Nous référons les ONG au Bureau de la coordination des affaires humanitaires et nous faisons tout ce qui est possible pour faciliter l'acheminement de l'assistance humanitaire, mais nous ne sommes pas en mesure, en l'occurrence dans le cas que vous avez mentionné, nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette demande. Il est en revanche complètement faux que nous ayons demandé de l'argent pour effectuer cette livraison d'assistance humanitaire. Nous ne demandons évidemment pas d'argent aux organisations non gouvernementales, mais il est important de comprendre qu'il y a un organisme de coordination des affaires humanitaires, OCHA, qui est en charge d'acheminer l'aide et que la MONUSCO ne peut pas tout faire.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Retenez ces deux dates dans vos agendas pour la semaine qui commence. Le 4 mars, journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable. Et le 8 mars, journée internationale de la femme. C'est la fin du magazine des Nations Unies. Willem Lungamba était à la technique et moi, Babette Pongo-Massimango, je vous l'ai présenté. Jean-Pierre Elali Koko était à la coordination, à la réalisation ainsi qu'au reportage. Toute équipe vous remercie de votre aimable attention. Bonne suite des programmes de Radio Capi.